Vous savez bien que les psaumes sont si merveilleux. Il n'y a pas une seule situation dans laquelle les gens peuvent se retrouver qui n'ait été décrite quelque part. Et puis, il y a aussi les proverbes, eux aussi uniques en leur genre, où la sagesse de la vie nous est transmise pour nous accompagner sur notre chemin. Je voudrais lire le psaume 4. Le psaume 27, verset 4. Je ne demande qu'une chose au Seigneur. C'est ce que je recherche, c'est ce que je désire, que je puisse demeurer dans la maison du Seigneur toute ma vie pour contempler la grâce du Seigneur et me consacrer à la prière dans son temple. Frère Branham l'a également exprimé très clairement dans le sermon « L'ordre de l'Église ». Il y disait « Les rencontres entre nous peuvent avoir lieu dans les maisons. Et la rencontre avec Dieu a lieu dans la maison de Dieu. » Et je pense qu'on peut le dire ici aussi, s'il y a quelque chose à discuter, on pourrait le faire dans le vestibule. Et ici, nous pourrions, dans la salle, nous adonner à la dévotion. Puisque j'en ai déjà parlé, j'aimerais également lire un passage des Proverbes. Puis nous poursuivrons notre méditation sur la parole. Sentez-vous à l'aise. Soyez comme chez vous, en présence de Dieu, et que la parole du Seigneur nous parle de toutes les manières possibles. Je voudrais lire quelques versets de la fin du chapitre 15 des Proverbes, ainsi que les premiers versets du chapitre 16. Proverbes, chapitre 15, verset 24. Le chemin de la vie monte vers le haut pour l'homme, avisé afin qu'il s'éloigne du séjour des morts qui est en bas. Verset 25, le Seigneur renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermé les limites de la veuve. Verset 26, les desseins malveillants sont une abomination pour le Seigneur, mais les paroles aimables sont pures. Verset 27, celui qui s'enrichit injustement détruit sa maison. Mais celui qui est les pots de vin vivra. Et voici maintenant le verset 28. Le cœur du juste réfléchit pour donner une réponse. Mais la bouche des impies déborde de malice. Et puis peut-être aussi le verset 30. Un regard bienveillant réjouit le cœur. Une bonne nouvelle revigore les membres. Je ne lis pas très souvent les proverbes car je suis plus à l'aise avec la parole prophétique, mais de telles paroles nous font du bien à tous. J'aimerais bien devenir moi aussi un peu plus bienveillant. S'il est écrit ici, Proverbe 15, verset 30, un regard bienveillant réjouit le cœur. Alors nous devrions bien, malgré tous nos fardeaux et nos difficultés, laisser le Seigneur nous accorder un regard bienveillant afin que cela fasse du bien aux autres, n'est-ce pas? Car cela doit aussi être une bénédiction. Et puis, au chapitre 16, verset 3, puis verset 7. Chapitre 16, verset 3. Confie tes œuvres au Seigneur et tes projets réussiront. Quelle merveilleuse parole! Confie tes œuvres au Seigneur. Nous connaissons tous le psaume où il est écrit « Confie tes voies au Seigneur ». Psaume 37, verset 5, « Et espère en lui, il agira ». Nous lisons ici, au verset 3, « Remets tes œuvres entre les mains du Seigneur et tes projets s'accompliront ». Nous pouvons nous confier entièrement à Dieu avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, ainsi qu'avec ce que Dieu fera encore de nous. Et puis le verset 7 m'a aussi plu. Le verset 7. Si la conduite d'une personne est agréable au Seigneur, il réconcilie même ses ennemis avec lui, avec elle. Avec elle. Puisse cela vraiment plaire au Seigneur sur ce point aussi, que nous vivions tous de plus en plus d'une manière ou d'une autre, que non seulement quelques passages bibliques, mais autant de passages bibliques que possible puissent devenir réalité dans notre vie personnelle et dans notre vie de foi. Que nous devenions réellement une épouse parole, une épouse en qui la parole de Dieu s'accomplit, oui, par qui la parole de Dieu s'accomplit. Vous savez, on entend généralement de moi que je dise toujours quelques... On entend généralement de moi que je dise quelques mots sur les derniers développements. Il se passe en effet chaque jour quelque chose de nouveau. Les choses évoluent si vite qu'il faut tout simplement dire... Seigneur, c'est pour demain. Ce n'est pas seulement proche, mais c'est devant la porte. Ce qui nous a certainement tous émus et frappés ces dernières semaines, c'est ce qui s'est passé à Paris. Le fait que l'Europe, l'unification, soit une affaire conclue, et dans l'ensemble, il n'y avait en réalité qu'un seul frein. Et c'était la dame de fer. Et ce frein n'est plus nécessaire. Et il fait obstacle, il ralentit. Il fallait qu'elle s'en aille pour qu'il ne puisse plus y avoir de freinage et que ce train européen puisse suivre son cours et que la prophétie biblique s'accomplisse ainsi sous nos yeux. Cela m'a fait penser à deux passages du prophète Daniel, lorsque, à l'époque, Mr. Khrushchev et Eisenhower se sont rencontrés à New York et que Khrushchev, un peu énervé, a retiré sa chaussure et l'a jetée en arrière sur le pupitre. Et ensuite, frère Branham a prêché un sermon en se référant au prophète Daniel et a parlé du fer et de l'argile qui, bien qu'ils s'unissent, ne se mélangent pas. Je lis cette parole, je sais que pour certains, la parole prophétique est un peu difficile. Et je me demande de temps en temps si cela a un sens d'en parler. D'un autre côté, oui, bien sûr, j'entends déjà. Mais je voudrais aussi que nous suivions tous d'une manière ou d'une autre, que nous ne tâtonnions pas seulement un peu, mais que nous ayons la sainte parole de Dieu devant nous et que nous la voyons s'accomplir. Ici, dans le prophète Daniel, au chapitre 2, nous avons, en ce qui concerne les dernières parties de la statue que Daniel a vue, la description suivante. Daniel chapitre 2, versets 32 à 34. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses hanches de cuivre. Et voici la suite, verset 33. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, de potier. Je vais maintenant vous lire l'explication tirée du même chapitre au verset 41 et 42. Verset 41. Mais le fait que tu aies vu les pieds et les orteils composés en partie d'argile, de potier et en partie de fer signifie que ce sera un royaume de nature hétérogène. D'une part, il aura en soi quelque chose de la solidité du fer, dans la mesure où tu as vu du fer mélangé à de l'argile. Maintenant, verset 42, mais le fait que tu aies vu les orteils des pieds composés en partie de fer et en partie d'argile indiqua que ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Oui, je pourrais en fait continuer à lire, car ce sont là des paroles très très importantes, en particulier pour notre époque. Des systèmes totalement différents s'unissent, doivent faire cause commune. Ils le doivent, car il n'y a pas d'autre issue. Je l'ai déjà dit ici la dernière fois, selon la prophétie biblique, il n'y aura qu'une seule puissance mondiale, et c'est la renaissance de l'Empire romain telle qu'elle est désormais inscrite dans les traités de Rome. Et croyez-moi, cela m'a aussi un peu touché lorsque j'ai fait escale à Rome sur le chemin de Palerme ainsi qu'au retour. Le clergé se déplace en masse vers tous les pays. Tous avec le col de leur soutane retournée et tous se déplacent à travers le monde. Et là, je pense en effet à ce que le pape a dit lors de sa dernière visite au Portugal. C'est la foi catholique romaine qui a autrefois façonné l'Europe et c'est à nouveau la foi catholique romaine qui façonne la nouvelle Europe. Et tous sont d'accord. Tous disent oui de la tête. Mais c'est ainsi aujourd'hui. Nous n'allons pas nous attarder sur ces détails. Je vous demande seulement d'y prêter toujours attention, car c'est à cela que nous reconnaissons l'heure qu'il est sur l'horloge du monde. La joie que Dieu nous ait effectivement envoyé un prophète dans cette génération est grande. Même si nous ne pouvons pas le dire avec un visage tout à fait rayonnant, nous en témoignons en toute sincérité, selon la vérité. Nous n'aurions pas connu ou compris tous ces liens et ces contextes par nous-mêmes si Dieu ne nous avait pas accordé le privilège d'entendre l'un de ses plus grands serviteurs et prophètes. Puisque nous en parlons, cela me rappelle ma visite à Ljubljana. Ce gentil jeune homme m'a donné un livre sur l'Antichrist. C'était écrit par quelqu'un à qui il manquait, je crois, le bras droit ou le pied droit, quoi qu'il en soit. Il m'a dit, je dois m'absenter une heure. Une heure. Lis-le et quand je reviendrai, dis-moi ce qui ne va pas dans ce traité. Et en effet, cela n'a pas pris longtemps. Il ne m'a pas fallu une heure entière pour trouver tout ça. Et savez-vous ce qui s'est passé? Il était très impatient. Et quand j'ai dit telle chose, et ainsi de suite, il s'est alors levé. Il était déjà assis, s'est approché de moi. Et j'ai dû me lever moi aussi. Et il m'a serré fort dans ses bras et m'a dit, « Dieu t'a envoyé dans notre maison. » Puis, il a poursuivi en disant, « En lisant, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. » Et c'est pourquoi je voulais l'entendre de ta bouche maintenant. Oui, il y a des gens qui sont prêts à écouter. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu les a destinés à entendre la vérité. Et c'est pourquoi ils en ont le désir. Encore un seul verset de Daniel 2. Et puis j'ai le sentiment aujourd'hui que nous devons nous rapprocher du Seigneur et que nous devons lire des passages bibliques qui concernent notre vie, notre communion avec Dieu, la vie spirituelle en général. Encore un seul verset de Daniel 2, verset 44. Daniel 2, verset 44. Mais au temps de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit éternellement et dont la souveraineté ne passera à aucun autre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes, mais lui-même subsistera éternellement. Au temps de ces royaumes tels que nous les vivons aujourd'hui, Dieu établira son royaume. Nous avons longtemps prié pour cela, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ainsi de suite. Tout cela est désormais à portée de main. Que Dieu ait pitié de nous tous, qu'il nous accorde sa miséricorde et qu'il nous conduise et nous amène à une communion plus intime avec lui-même et aussi entre nous, les uns les autres. Je voudrais lire un passage d'Hébreux 4, puis quelques autres passages. Hébreux 4. Ici, on nous rappelle la parole que l'on entendait souvent de la bouche de frère Branham. Je voudrais la lire. Hébreux chapitre 4, versets 11 à 13. Verset 11. Veillons donc avec zèle à entrer dans ce repos afin que personne ne tombe et ne donne ainsi le même exemple d'avertissement par sa désobéissance. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Et il n'y a rien de créé qui puisse se cacher devant lui. Non, tout est mis à nu et dévoilé aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Il s'agit simplement de l'effet de la parole de Dieu. Dieu soutient sa parole de toute sa puissance, de toute sa force. Combien de fois l'avons-nous dit? Il a parlé et cela s'est fait. Il a ordonné et cela s'est réalisé. Psaume 33, verset 9. Mais nous aussi, nous devons faire l'expérience personnelle de l'effet de cette parole de Dieu, de cet évangile, qui est une puissance de Dieu. Comme nous l'avons déjà noté tout à l'heure, même la plus grande et la meilleure connaissance ne nous rendra pas sauvés, ne nous sauvera pas. Il faut qu'il y ait une vie issue de Dieu et une croissance spirituelle, un véritable renouveau afin que Dieu puisse poursuivre son œuvre. Mais nous restons pour autant des êtres humains tout à fait naturels. Est-ce bien compris? Des êtres humains tout à fait naturels. Et je ne sais pas si vous allez m'en vouloir tous les deux, si je fais maintenant une remarque. Mais en décembre, un mariage aura lieu à Zurich. Et je pense que le frère a, je dirais, 65 ans et la sœur, je dirais, 60 ans. Et quand j'ai entendu cela, je me suis réjoui de tout cœur. Cela montre tout simplement que même les croyants peuvent encore penser et agir normalement si tel est le cas. Tout le monde n'a pas le même chemin tracé, mais celui qui emprunte un tel chemin, qu'il le fasse avec Dieu. L'avons-nous compris? Nul n'a le droit de blâmer l'autre, car ton chemin n'est pas mon chemin, et le chemin d'un frère et d'une sœur est bien leur chemin et non le nôtre. Il faut donc toujours laisser chacun à Dieu en tout temps, comme le dit Paul. Que cela se fasse dans le Seigneur. Et tous deux sont heureux comme s'ils avaient à nouveau 18 et 20 ans. Et nous le leur souhaitons aussi de tout cœur. Revenons ici à notre parole. Elle pénètre. Elle sépare, mais pas l'esprit de, et pas l'esprit et la réflexion de la vie pratique. Que sépare-t-elle l'esprit et l'âme, la moelle et l'os? Comme je l'ai souvent dit, les croyants sont en réalité les personnes les plus raisonnables, les plus sobres qui soient sur terre. Il ne peut y avoir personne de plus raisonnable, de plus sobre que ceux qui ont reçu la sagesse divine par la parole et l'esprit pour les conduire sur leur chemin. Et je vous le demande, existe-t-il sur terre un groupe, une humanité, une race ou une religion quelconque qui puisse se prévaloir d'un tel livre tel qu'il nous a été légué pour toute notre vie de foi et aussi pour notre vie terrestre? Nous sommes un peuple privilégié par Dieu. Et si nous sommes devenus le peuple de Dieu, passons maintenant à l'épître de Tite. Tite, chapitre 1, j'ai noté deux ou trois passages qui ont pris pour moi une grande importance dans l'espoir que le Seigneur nous parle également à travers ces passages. Dans Tite, au chapitre 1, que tout le monde connaît bien, je lis ici le verset 2. Verset 2. En raison de l'espérance de la vie éternelle que le Dieu infaillible a promise avant les temps éternels. Verset 3. Mais il a manifesté sa parole au temps fixé par la prédication dont j'ai été chargé sous un mandat divin de la part de Dieu notre Seigneur. Donc, en réalité, c'était en fait le verset 1 que je voulais, qui m'intéressait. Excusez-moi. Verset 1. Moi, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui se manifeste dans une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc, il s'agit donc aussi de notre conduite dans la vie de foi de manière très concrète, d'être éprouvé là, dans la vie de foi, chacun là où Dieu l'a placé. Dans 1 Timothée 4, je voudrais lire le verset 6. 1 Timothée chapitre 4, verset 6. 1 Timothée chapitre 4, verset 6. Si tu enseignes cela aux frères, tu seras un serviteur louable de Jésus-Christ, car tu te nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as prise pour guide, que tu as suivi exactement. Il y a à laquelle tu t'es attaché. Il y a un plan. Et moi-même, je ne l'ai vu que dans le domaine de la construction. la plupart du temps, quand on construit, il y a un plan, un guide, une règle. Le maçon, tous les ouvriers travaillent. Tout doit être parfait. C'est un plan. Un guide, la construction doit être droite. Tout doit être à sa place. Il est question ici d'un guide, d'une règle, d'un plan. Nous sommes alignés selon la parole de Dieu. Nous nous inscrivons dans le plan de Dieu. Nous disons oui à chaque parole qu'il a prononcée afin de ne faire qu'un avec la parole. Je voudrais ici lire un extrait de 2 Thessaloniciens 2. Je lis volontairement quelques passages et vous verrez que l'un sera plus puissant que l'autre. Et tous sont magnifiques. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Auparavant, il est question de l'avènement du Seigneur et du jour du Seigneur et l'apostasie de diverses choses. De diverses choses. Et il est écrit ici ensuite au verset 13. Mais nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous sommes tenus de rendre grâce à Dieu pour vous en tout temps, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification opérée par l'Esprit et par la foi en la vérité. Et la vérité est et reste la parole de Dieu. Nous ne sommes pas une association pieuse, nous voulons être l'Église de Jésus-Christ. Et comme nous pouvons le lire dans 1 Timothée 3, verset 15, cette Église est le fondement et le pilier de la vérité. C'est-à-dire imprégné par la parole de vérité qui nous a été révélée et éclairée par le Saint-Esprit. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, se trouve une parole qui cache une menace, et ce pour les incroyants. Ce jour-là approche, lui aussi, le jour où le Seigneur sera glorifié dans les siens, mais où il infligera un châtiment à ceux qui ne l'ont pas cru. Je lis ici dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. C'est là une indication du juste jugement de Dieu, à savoir que vous êtes jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous devez justement souffrir. Verset 6, car cela correspond certainement à la justice de Dieu de rendre à vos persécuteurs la persécution qu'il vous inflige. Verset 7, mais de vous procurer à vous qui êtes affligés un réconfort en communion avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus se manifestera du ciel avec les anges de sa puissance, verset 8, dans un feu ardent, pour exercer un châtiment sur ceux qui n'ont pas reconnu Dieu et sur ceux qui n'ont pas prêté l'oreille à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Verset 9, ceux-là subiront en châtiment une perdition éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa puissance, lorsqu'il viendra pour être glorifié parmi ses saints et admiré par tous ceux qui ont cru, car c'est chez vous que notre témoignage a trouvé la foi en ce jour-là. D'un point de vue doctrinal, il s'agit ici d'un passage tout à fait considérable, un passage clé pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas seulement un retour du Seigneur où nous serons enlevés à sa rencontre, où nous le rencontrerons dans les airs et où nous serons ensuite amenés avec lui dans la gloire pour célébrer le festin des noces en tant qu'épouse avec l'époux. Mais il y a aussi une venue du Seigneur dans la colère, dans le feu, pour punir les rebelles et les impies, et pour être glorifié ici-bas parmi les siens et susciter l'admiration. Nous savons bien que le royaume millénaire aura lieu sur cette terre et le Seigneur réglera leur compte aux puissances qui marcheront contre Israël et il fera de même avec ses ennemis, mais il sera glorifié parmi les siens. Je lis aussi souvent maintenant la traduction appelé de Zurich. J'ai en effet 15 traductions de la Bible chez moi et c'est tout de même merveilleux de voir à quel point les traducteurs se sont de plus en plus rapprochés. Tout simplement merveilleux de voir comment à cet égard aussi le Seigneur a accordé sa grâce. Nous lisons donc ici au verset 10 « Quand il viendra pour être glorifié parmi ses saints et pour être admiré par tous ceux qui sont devenus croyants, non seulement chez l'épouse, mais l'épouse, ensuite les 144 000, donc auprès de tous ceux qui sont devenus croyants. Il s'agit d'abord de la sélection, des élus qui sont destinés à contempler la gloire de Dieu, à prendre part à la première résurrection, et à célébrer le festin des noces en tant qu'épouse avec l'époux. Il faut toutefois préciser que tous les élus de l'Ancien et du Nouveau Testament seront présents, car il est écrit « En ce jour-là, nous prendrons part au festin avec Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'avec tous les saints. » Et selon Matthieu 27, verset 51, beaucoup de saints sont ressuscités avec Christ. Pas tous, beaucoup, mais c'est écrit beaucoup, à savoir les nombreux qui font partie de la première résurrection. Les autres doivent attendre que vienne la seconde résurrection. Mais si nous venons de lire et de méditer ce passage, il est très important de toujours écouter attentivement. Imaginez que quelqu'un prêche maintenant lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour nous ramener chez nous dans la gloire. Il viendra avec les anges de sa puissance et il viendra avec un feu ardent pour exercer sa vengeance. Quel genre de prédication serait cela? C'est tout simplement impossible. C'est pourquoi il faut sans cesse insister, comme Paul l'a fait, à l'intention de Timothée, qui dispense droitement la parole de vérité. Il faut simplement replacer chaque parole dans le contexte auquel il appartient. Et alors, tout s'accorde. Alors les choses s'assemblent d'une manière tout à fait merveilleuse. Verset 10, quand il viendra, c'est ce qui est écrit ici, pour être glorifié parmi ses saints et admiré par tous ceux qui ont cru. Alors le nombre sera complet. Issus des nations, du peuple d'Israël, les appelés et les élus, les vierges sages et les vierges folles, tout ce qui a été réconcilié avec Dieu par Golgotha apparaîtra alors devant le Seigneur. Quand à la manière dont les choses se passeront, le mot classé n'est peut-être pas tout à fait exact, mais où chacun trouvera sa place. Dieu le sait mieux que quiconque. Ce qui est beau en tous les cas, c'est de pouvoir faire partie de la troupe des prémices. Qui voudrait en faire partie? Qui voudrait être directement parmi la troupe des prémices, parmi la première vague qui sera ainsi enlevée de cette terre vers la gloire? Oui, et j'y crois. Et je crois que c'est justifié, car nous ne croyons pas seulement de manière générale au salut auquel croient certes beaucoup de gens qui s'est accompli sur la croix à Golgotha, mais nous croyons aussi aux promesses que Dieu nous a données dans sa parole. Et c'est pourquoi notre foi est une foi vivante, unie, liée à Dieu, qui nous entraîne vers son accomplissement. Est-ce assez clair? Ce n'est pas seulement une rédemption. Nous en rendons grâce à Dieu pour cela. Mais ce n'est que le début. Et ensuite, nous suivons le Seigneur pas à pas, chacun dans son domaine. Je lirai peut-être aussi la parole à ce sujet, car Paul a écrit sur tous les thèmes. Nous en sommes également très reconnaissants à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 15. Ici, au moins, les trois choses telles qu'elles ont été classées nous sont présentées. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 22 à 24. Car de même que tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Verset 23. Mais chacun dans son propre ordre. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Cela se trouve dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 23. Christ comme le premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour, verset 24, ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à Dieu le Père, et ainsi de suite. Donc, Dieu nous a donné dans sa parole une division, un classement très clair et bien structuré. Venons maintenant à nous personnellement. Nous voulons bien sûr que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit. J'en ai besoin plus que jamais et je crois que chacun d'entre nous qui souhaite subsister devant Dieu et être approuvé par Dieu et qui est sincère sentira que nous devons nous rapprocher de Dieu, recevoir davantage de lui et qu'il puisse se révéler davantage à nous. Je voudrais lire à ce sujet le chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Ici, nous sommes interpellés d'une manière tout à fait merveilleuse et même avec insistance. 1 Thessaloniciens 5, seulement les derniers versets, 25 à 28. Verset 25, « Chers frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par le saint baiser. » Verset 26, « Je vous en conjure par le Seigneur. » Verset 27, « Que cette lettre soit lue à haute voix à tous les frères. » Verset 28, « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » En particulier, cette insistance, verset 26, « Je vous en conjure par le Seigneur, que personne ne jure, ni par Dieu, ni car il dit, le ciel est mon trône, ni par la terre, car il dit, la terre est le marchepied de mes pieds, ni par l'autel, Ésaïe 66, verset 1, mais Dieu le peut. Il est d'ailleurs écrit à propos de Dieu, comme il ne pouvait jurer par un autre, il a juré par lui-même. Hébreux 6, verset 13. Afin, comme nous l'avons déjà vu ici, de donner du poids à la chose qu'il a annoncée pour montrer qu'elle est immuable et éternellement décidée par Dieu. Or, ici, un homme de Dieu nous exhorte, chacun d'entre nous à l'époque et nous tous en général. Verset 26, « Je vous conjure, par le Seigneur. Verset 27. Faites en sorte que cette lettre soit lue à tous les frères, à haute voix. Qu'est-ce qui a précédé cette déclaration? L'exposé présenté ici dans les épîtres aux Thessaloniciens. Et dans chacune de ces épîtres, il est toujours question du retour du Seigneur, ainsi que maintes fois de la colère à venir, de la parole que nous avons reçue, non pas comme une parole d'homme, mais comme la parole de Dieu. Vous savez, les lettres que vous lisiez, les épîtres aux Romains, aux Corinthiens, ou aux Éphésiens, toutes les lettres ont une certaine empreinte, un certain caractère et abordent des thèmes bien précis. Et ici, il s'agit donc effectivement du thème du retour du Seigneur, des choses que nous attendons maintenant. Je lis le dernier verset du chapitre 1 de la première épître aux Thessaloniciens. Voici ce qui est écrit au verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Et d'attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous sauve de la colère d'avenir, de la colère à venir. La parole que nous avons lue précédemment dans 2 Thessaloniciens 1 verset 10 parle déjà de la colère, de sa venue après la colère. Mais ici, il est dit en introduction que le Seigneur Jésus vient pour nous sauver de la colère à venir, c'est-à-dire pour nous ramener chez nous à la gloire, dans la gloire, avant que les jugements de la colère ne s'abattent et que le feu ardent ne se manifeste. Puis, dans la dernière partie du deuxième chapitre, cela correspond en fait à ce que notre frère a déjà lu, frère Corrado. Il est dit que le Seigneur écrasera Satan sous nos pieds. Il ne peut en être autrement, car la terre est le marchepied des pieds du Seigneur. Et il est écrit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans la lettre aux Corinthiens, il doit régner au milieu de ses ennemis jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds. 1 Corinthiens 15, verset 25. Il est et reste le vainqueur de Golgotha. Tout le reste doit et va se soumettre à lui et s'y subordonner. Mais nous voyons que Satan peut encore de temps à autre se dresser contre un obstacle sur notre, comme un obstacle sur notre chemin, même si ce n'est que temporairement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 17. Maintenant, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 17. Mais nous, frères bien-aimés, qui avons été privés de vous pendant un certain temps, certes seulement en apparence et non dans nos cœurs, nous nous sommes efforcés d'autant plus ardemment avec un vif désir de vous voir face à face. Verset 18. C'est pourquoi nous avions prévu de vous rendre visite, moi, Paul, même plus d'une fois. Mais Satan nous en a empêchés. Vous pouvez bien sûr, bon, je vais quand même lire jusqu'à la fin. Verset 19. Car qui est notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire, si ce n'est vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Lors de son avènement. Il s'agit donc ici du retour de Jésus-Christ. Et nous remarquons que même l'apôtre Paul a été retenu, qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Et pourtant, Dieu est avec lui et avec nous tous. Dieu atteindra son but. Quant aux autres chapitres, en particulier le chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, où nous avons justement la description directe du retour du Seigneur. L'apôtre commence au verset 13 et poursuit jusqu'à la fin du même chapitre. Et il est alors dit, verset 17, « Alors nous serons toujours avec le Seigneur, unis. » Avant cela, il est dit que nous serons enlevés. Verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. » Et puis commence quelque chose de très, très important, en rapport avec le jour du Seigneur avant lequel le prophète Élie devait venir pour ramener les cœurs des enfants de Dieu vers l'origine, vers les pères en Christ. Le chapitre 5 en parle clairement dès le début, puis suivent des exhortations personnelles à notre intention en tant que croyants. Et nous allons aborder brièvement ces exhortations personnelles avant de mettre l'accent sur la conclusion. Si nous lisons ainsi jusqu'au verset 4. Le texte a toujours été connu. Verset 4, « Mais vous, frères bien-aimés, ne vivez pas dans les ténèbres de peur que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. » Au verset 5, « Car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous n'avons rien à voir avec la nuit et les ténèbres. » Viennent ensuite les exhortations, les avertissements. Verset 6, « Ne dormons donc pas comme les autres, mais restons éveillés et sobres. » Verset 7, « Car ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment, et ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. » Verset 8, « Mais nous, qui appartenons au jour, restons sobres, revêtus de la cuirasse, de la foi et de l'amour et du casque de l'espérance du salut. » Verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, au jugement de colère, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Christ. Verset 10, qui est mort pour nous, afin que nous veillions ou que nous dormions, nous vivions unis ensemble avec lui. Verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Il s'agit donc vraiment de tout. De tout. Pas seulement de l'enseignement sur le retour du Seigneur, que ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront les premiers et que ceux qui vivent en Christ seront transformés et enlevés. Tout cela est merveilleux. Il s'agit de plus que cela. Il s'agit de rester vigilant. Il s'agit de la tâche que Dieu nous a confiée et qui est liée à l'édification du corps afin que nous puissions l'accomplir. J'ai reçu un appel tôt ce matin. Un frère prêchait quelque part. Je l'ai vu une ou deux fois, mais je ne le connais pas mieux que cela. Et puis, à l'autre bout du fil, on m'a dit, il nous a tous anéantis en prêchant. Et cela m'a tellement touché. Je me suis dit, quand on lit la parole de Dieu, il est pourtant écrit noir sur blanc que Dieu a établi les ministères pour l'édification de l'Église, non pas pour la destruction, mais pour la promotion, pour l'édification. Et si quelqu'un est envoyé par Dieu, alors l'édification doit être présente dans la parole, dans la foi, en tout. Si aucune édification spirituelle n'est associée à une prédication, oui, d'où vient alors ce serment? D'où vient cette prédication? Si elle vient de la parole de Dieu, alors c'est Dieu lui-même qui nous parle. Et alors, ce ne sont pas des paroles vides. Alors, la puissance de Dieu est dans la parole de Dieu pour nous donner ce qu'il a promis et préparé pour nous tous. Oui, ce qu'il a destiné pour nous. Cette pensée est en effet très, très importante. Dieu édifie. Il ne fait que détruire les œuvres de Satan. Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan. Et tout cela s'est accompli à Golgotha. Et il ne reste plus jusqu'à en vivre l'accomplissement dans le détail. Mais quand il s'agit de l'Église, il s'agit vraiment d'édification, y compris chez les individus. Je vais vous le dire sans détour, il y a des gens envers lesquels nous devons faire preuve d'autant de patience que Dieu en a envers nous. Avez-vous bien écouté? Nous voulons que Dieu ait de la patience avec nous et nous savons qu'il en a. Car si Dieu n'avait pas eu de patience avec nous et ne nous avait pas portés avec une patience bienveillante, où serions-nous aujourd'hui? Comme cela s'est passé dans un pays lointain, je peux bien le dire. Je connais un frère, je l'appelle simplement frère, je ne peux pas faire autrement que Dieu lui vienne en aide et lui accorde sa miséricorde. Dans tous les cas, j'ai fait une escale un jour pour lui parler, car il me tenait à cœur. Et je savais qu'il fréquentait de mauvaises fréquentations et qu'il fumait, je crois que ça s'appelle du hashish. Il ne le fait pas en ma présence. Il ne le ferait jamais car il m'apprécie. Mais quand je lui ai parlé à l'époque et que je lui ai simplement exposé tout cela en lui disant, écoute, je t'aime d'un amour divin. Il a alors voulu me faire comprendre que Dieu fait pousser tout ce qui existe et comme je pourrais mépriser ce que Dieu fait pousser en plein champ. Se référant à cette herbe qu'il fume. Vous connaissez bien les arguments de ces gens. Et puis vient la réponse, Dieu fait pousser beaucoup de choses, mais à des fins très différentes. Si des champignons vénéneux poussent dans la forêt, ce n'est certainement pas pour qu'ils finissent dans ma poêle ou dans mon estomac. Vous comprenez? Il y a donc beaucoup de choses. Et quand on a alors la grâce de ne pas se placer au-dessus d'une telle personne, mais simplement de se tenir vraiment à son niveau et de dire, Dieu m'a fait grâce dans les épreuves que j'ai dû surmonter. Ce même Dieu a de la patience avec toi et te fait grâce dans les épreuves que tu dois surmonter. Lui aussi m'a pris dans ses bras. Il a dit, tous les autres m'ont condamné et ont prononcé leur jugement sur moi. J'ai dit, écoute, dans un tel état, et en plus prononcer un jugement. Ici, le jugement doit être annulé. Ici, la grâce et la délivrance doivent être proclamées. Et pour autant que je sache, le Seigneur aura soit déjà révélé sa victoire, soit l'exécutera et la révélera très prochainement. Il y a tout simplement des gens qui sont possédés par une autre puissance et qui ne peuvent pas céder eux-mêmes. Ils le voudraient, mais ils ne le peuvent pas. Et s'ils ne le peuvent pas, devons-nous encore les condamner? Non. Que Dieu nous accorde une proclamation investie de pouvoir afin que les captifs soient libérés, comme il est écrit dans le prophète Ésaïe. Et ainsi, le Seigneur suivra en effet son chemin avec son peuple. Il en est autrement de la femme de la Pentecôte. De la Pentecôte qui est venue chez frère Branham en faisant des pas de danse et en sautillant. Vous connaissez tous le sermon. Et frère Branham lui dit, « Sœur, pas comme ça. Tu entres chez lui. Tu entres sur le chemin du Seigneur, mais il ne te laissera pas passer ainsi. » Et elle a dit, « Si, je vais y arriver. » Et voilà qu'elle est tombée et a dégringolé tout droit hors du chemin. Il faut toujours distinguer ce que c'est et de quoi il s'agit. Revenons à cette parole-là. Il s'agit simplement de rechercher et de trouver une communion plus intime avec Dieu. Et si nous devons nous plonger dans la prière, et sans cela, cela ne fonctionnera de toute façon pas, mais des prières qui expriment le cri de détresse de notre âme et qui peuvent ensuite nous exhorter et nous édifier mutuellement, d'autant plus que nous voyons que ce jour du retour de Jésus-Christ approche. quand il est écrit ici au verset 11, c'est pourquoi « Exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » La lettre continue encore. Vous pouvez la lire chez vous entièrement. Il est dit ici au verset 12, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui prennent soin de vous dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux beaucoup d'affection et d'estime à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. » Ça, c'était le verset 13. Ensuite, cela continue au verset 14. Ensuite, nous vous exhortons, chers frères, réprimandez ceux qui ne mènent pas une vie ordonnée, encouragez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Verset 15, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais efforcez-vous toujours de faire le bien les uns envers les autres et envers tous. Il y a donc ici toute une série de choses qui sont liées entre elles. Puisque nous parlons déjà du retour du Seigneur et que nous l'attendons, puissions-nous pourtant nous conformer de plus en plus à ces choses qui nous sont demandées, puissions-nous apporter notre aide afin qu'une croissance et un progrès dans la vie de foi puissent être constatés. Il peut aussi y avoir des découragés. Et une personne découragée a besoin d'encouragement, mais d'encouragement sur le bon ton, de la bonne manière. Dieu nous rendra capables. Je n'en ai aucun doute. Il a à sa disposition tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie qui lui soit agréable ici-bas et pour le servir ainsi que nos prochains. Il a également dit, verset 16, soyez toujours joyeux. Ce n'est pas toujours facile pour nous, il n'y a pas grand-chose dont on puisse se réjouir, mais néanmoins, la parole doit rester vraie. Au verset 16, soyez toujours joyeux et soyez honnêtes. Lorsque nous nous taisons face à certaines difficultés et épreuves, c'est pourtant une paix céleste qui imprègne notre âme et quelque chose nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cela peut s'ajouter, tout ira bien. Il fait toutes choses bien. Marc 7, verset 37. Même si nous traversons des heures et des jours où nous ne savons plus où donner de la tête, lorsque nous nous taisons devant le Seigneur, une petite voix en nous nous dit qu'il fera tout bien. Soyez toujours joyeux. Verset 16, verset 17. Priez sans cesse. Verset 18. Remerciez en toutes circonstances. En toutes circonstances, car c'est ce que Dieu attend de vous en Jésus-Christ. En toutes circonstances. Donc, il n'y a pas ici la moindre exception. En toutes circonstances. Aussi difficile soit-elle, que Dieu m'accorde aussi cette grâce. Car ce n'est qu'en nous conformant à ce qui est écrit ici que nous deviendrons des vainqueurs. Des vainqueurs. L'avons-nous compris? C'est seulement ainsi que nous deviendrons des vainqueurs. Et comment vainquons-nous? Par le sang de l'agneau et par la parole de Dieu qui est devenue notre témoignage. Et nous savons tous que le Seigneur veut faire de la troupe des prémices une troupe de vainqueurs, jusqu'à ce qu'on puisse vraiment dire, ceux-là ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et cela va encore plus loin. Verset 17, priez sans cesse, verset 18, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est ce que Dieu attend de vous en Jésus-Christ. Verset 19, ne laissez pas s'éteindre en vous l'Esprit Saint. Verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Verset 21, examinez tout. Retenez ce qui est bon ou ce qu'il y a de meilleur. Verset 22, fuyez le mal sous toutes ses formes. Et puis vient l'exhortation avec ces mots, l'exhortation finale avec ces mots. Verset 23, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Et que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés, irréprochables, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici maintenant le point culminant, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, il accomplira aussi son œuvre en vous. Il accomplira aussi son œuvre, il le fera. Et maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi l'apôtre écrit, « Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à haute voix à tous les frères. » À tous les frères, dans toute l'Europe, dans tous les pays du monde, sur toute la surface de la terre. Et que cette parole de Dieu qui nous a été révélée fraîchement depuis le trône en cette génération, par une bouche appelée, mandatée, trouve une oreille attentive. Et que la Bible soit lue comme un livre nouveau, non pas à la lettre, mais véritablement à la lumière de la révélation divine qui nous a été accordée par grâce. Nous voulons nous aussi veiller à ce que tous les passages de l'Écriture, en particulier ceux qui revêtent une importance capitale à l'approche du retour du Seigneur, ne soient pas seulement lus, mais qu'ils soient crus et suivi, mis en pratique, afin que nous puissions devenir des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique, dans la certitude que fidèle est celui qui vous a appelé. Oui, celui qui vous a élu, choisi, qui vous a fait sortir du monde, qui nous a accordé sa grâce, qui s'est révélée à nous. Il est fidèle et il nous rendra fidèles, lui aussi, et mènera à son terme l'œuvre qu'il a commencée pour le jour du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il achèvera son œuvre qu'il a commencée. Pour ma part, je me réjouirai de voir très bientôt la main puissante du Seigneur tendue ici même, en ce lieu, agissant puissamment. Dieu est puissant, oui. Dieu est tout puissant et il bénira les siens afin qu'ils puissent être une bénédiction pour les autres. Et comme nous l'avons souvent dit, il achèvera l'œuvre commencée au jour de ses royaumes. Ainsi l'avons-nous lu dans le prophète Daniel. Le Dieu du ciel, Daniel 2, verset 44, fera surgir son royaume qui sera éternel. Et tous les autres royaumes seront brisés et trouveront leur fin. Le Seigneur sera roi sur toute la terre et trouvera admiration, honneur et glorification en tous les rachetés, juifs et nations. Par grâce, nous pourrons alors aussi y être. La troupe des prémices a en effet l'avantage d'être au festin des noces dans le royaume, d'être au festin des noces et dans le royaume millénaire aussi, d'y être toujours. Que Dieu nous l'accorde à moi, à toi, qu'il nous l'accorde à tous par grâce. Et ensemble, nous croyons que par grâce, nous pouvons en faire partie. À lui, notre Seigneur, soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration pour l'éternité. Amen. Levons-nous et rendons gloire au Seigneur. Père céleste, Seigneur bien-aimé, qui sommes-nous pour pouvoir venir à toi? Ô Dieu, toi Dieu saint, comme Esaïe, nous crions, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Seigneur bien-aimé, purifie-nous toi-même, sanctifie-nous toi-même, agis en nous par la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Seigneur bien-aimé, ensemble nous te rendons grâce, tout particulièrement, de pouvoir compter parmi ceux que tu as appelés à tes côtés pour nous révéler les mystères du royaume de Dieu. pour nous montrer les liens, les contextes, pour mettre les choses en ordre. Seigneur bien-aimé, mets-nous maintenant en ordre, ô Dieu. Classe-nous, que tes voix deviennent désormais nos voix. Que tes pensées deviennent nos pensées, qu'il y ait une harmonie, Seigneur bien-aimé, une conformité. C'est pourquoi nous te le demandons tous maintenant. Mets-nous en accord avec toi et avec ta parole. Aide-nous, ô Seigneur, et sois miséricordieux envers nous. Ne nous laisse pas continuer ainsi à marcher. Aie pitié de nous. Viens à notre rencontre dans ta miséricorde, Dieu. Commence à agir d'une manière nouvelle et libre, ô Seigneur. Prends toute cette dépression, prends toute cette détresse, tous ces gémissements, toutes ces plaintes, comme autrefois en Égypte, Seigneur. Nous sentons aujourd'hui aussi que les gémissements, loin de diminuer, ne font que s'intensifier. Ô Seigneur, accorde-nous la libération, la délivrance, la véritable libération, afin que ton peuple puisse partir pour te servir, pour louer ta victoire et proclamer la droite du Seigneur est élevée. La droite du Seigneur remporte la victoire. Seigneur, au fond de nous, psaume 118, verset 16, nous savons bien que tous les ennemis ont déjà été placés au pied de ton trône. Toi le vainqueur de Golgotha, toi l'agneau de Dieu, nous te rendons grâce, nous t'adorons. Tu as également été jugé digne de prendre le livre, d'en briser les sceaux et de le révéler. Tu l'as pourtant révélé à notre frère Branham, à notre bien-aimé frère Branham en 1963. Seigneur bien-aimé, tu es le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tu parles, tu agis, tu sauves, tu guéris, tu bénis et tu te révèles à ton peuple. Nous nous remettons entre tes mains, que soit lu dans le monde entier tout ce qui s'y rapporte. Lorsque tu reviendras, et aussi en préparation de ta venue, ô Seigneur, tout ce qui s'y rapporte, que les épîtres des apôtres qui apparaissent maintenant sous la lumière prophétique soient lus dans cette clarté divine, dans toutes les assemblées, afin que le corps du Seigneur soit édifié et assemblé et que tu puisses bientôt revenir pour nous prendre auprès de toi. Nous te remercions du fond du cœur pour ce que tu as déjà accompli et nous te remercions d'avance pour ce que tu feras de plus grand encore à la gloire et à l'honneur de ton nom. Alléluia! Accueille tous ceux qui t'ont consacré leur vie, y compris ceux qui se sont fait baptiser récemment. Seigneur, sois avec eux d'une manière toute particulière. Soutiens-les, fortifie-les. Ô Seigneur, donne-leur des frères et sœurs qui leur soient proches, ô Seigneur, et qui puissent les aider dans leur premier pas dans la foi. Unis-nous aussi intimement les uns aux autres. Ô Seigneur, que nous puissions servir comme tu le désires. Une fois encore, que la reconnaissance et l'adoration te soient apportées pour tout. Au nom de Jésus, Amen.